Cours de philosophie promis par le père Philippe à Saint-Jeudard le 18 mai 1988.
Ajoutez à propos de ce que je pouvais vous dire la dernière fois sur la relation. Combien en théologie la relation va jouer un rôle important. Voyez, on ne transpose pas en théologie la quantité, ni la qualité en Dieu. En Dieu, seule la substance existe. Et avec le mystère de la très sainte Trinité, la relation. C'est très étonnant, ce serait du reste très intéressant à réfléchir, que au plan de la foi, seule substance et relation peuvent être transférées, translatées en Dieu. Parmi tous les prédicaments, la substance, elle est première dans l'ordre de l'être, on comprend, puisque Dieu est premier dans l'ordre de l'être. La relation, c'est plus difficile à comprendre. Mais parce que la relation n'implique en elle-même aucune perfection. C'est un être tellement débile, tellement fragile. Un être, ça n'implique aucune perfection. C'est du reste très curieux. C'est pour ça qu'un être qui ne vit que de relations n'a plus aucune qualité. Et au fond, n'a plus aucune personnalité. Vous pouvez assumer un certain nombre de relations. Et quand vous voulez en assumer trop, vous êtes complètement perdu. C'est très curieux, ça. La relation comme telle n'implique aucune perfection. Le fondement de la relation va impliquer une perfection, mais pas la relation, comme nous verrons. Et c'est pour ça que je peux transposer la relation en Dieu. Tout le mystère de la très sainte Trinité, tel que saint Thomas le regarde au point de vue théologie scientifique, est construit sur le point de vue de la substance, la simplicité absolue de Dieu, et sur le point de vue de la relation. C'est très étonnant, ça. Je n'en dis pas plus. C'est à titre de réflexion, ça. C'est pour que vous compreniez que dans une philosophie comme la nôtre, qui est une philosophie qui essaie de comprendre la réalité, la substance est fondamentale. Et la relation, je ne dis pas qu'elle est fondamentale, puisque je vous disais, c'était plutôt l'éclatement. Mais la relation joue un rôle extraordinairement important. Parce que si je suis chrétien et que je me sers de ma philosophie pour essayer de communiquer quelque chose du mystère de Dieu, d'avoir un discours sur Dieu, je vois que c'est la substance et la relation qui vont être le plus utilisées. Si avec la substance, je ne pourrais absolument rien dire sur le mystère de la très sainte Trinité, je ne pourrais absolument rien dire sur le mystère du Christ. Je ne pourrais absolument rien dire sur le mystère des sacrements. Parce qu'il y a eu des philosophies qui ont rejeté complètement la relation. Spinoza. Spinoza ne voit que la substance. Vous voyez, les deux extrêmes, on peut dire. Spinoza et Hamelin. À ce point de vue-là, c'est très curieux et c'est très intéressant. Ce serait très intéressant de les mettre l'un en face de l'autre. Le philosophe de la substance, Spinoza. Monothéisme. C'est vrai, Spinoza, le juif, qui ne veut que le monothéisme, qui ne voit que la substance. Hamelin, qui fut chrétien. Je ne crois pas qu'Hamelin était resté très chrétien. Je ne sais pas, point de vue conviction. Il ne voit que la relation. Post-hégélien. Tout se ramène à la relation. Et c'est en ce sens-là que ces philosophies ne voient plus dans la personne que la communication. Vous existez dans la mesure où vous êtes un centre de relation. Donc un centre de communication. Une gare de triage. Vous n'existez que comme ça. Alors évidemment, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien dire de Dieu. C'est pour mieux saisir et comment l'être est au-dessus de toutes les modalités de l'être. Quand je dis que l'être est analogique, vous voyez, c'est pour essayer de comprendre comment ce qui est en tant qu'il est je ne dis pas qu'il fait la synthèse de la substance et de la relation. Ce serait faux. Mais l'être analogique est au-delà de la division substance-relation. Puisque c'est l'être qui est divisé en substance et relation. L'accident, le plus accident, si j'ose dire, le maximé dans l'ordre des accidents, c'est la relation. Eh bien, l'être est au-dessus. Quand je pense l'être, c'est premièrement substance, deuxièmement relation. L'être est les deux. Et c'est là, là quelque chose de très très particulier de saisir ça. La forme comme telle. La relation implique une forme. C'est une certaine forme. Une forme extraordinairement ténue. Vous allez voir, l'intelligibilité de la relation, c'est quelque chose de très très fragile. Tandis que la substance, c'est stable. Inta, c'est la substance, c'est ce qui se tient. C'est ce qui se tient par soi. Tandis que la relation, elle est extatique. On est en dehors, sorti de soi. Pour essayer de comprendre ça, pour essayer de voir comment la relation me donne une ultime signification de l'être. Bon, je n'insiste pas plus. Là, je vous disais, au point du topique, regardons dans Platon, dans la philosophie de Platon, le relatif joue un rôle très important, mais également très difficile à préciser, car le relatif est sans doute ce qui s'oppose à ce qui demeure, l'ousia. Mais à certains moments, il semble constitutif de l'ousia même, et donc de l'idée. Ça qui est très difficile dans la philosophie de Platon, que la relation ait beaucoup d'importance chez Platon, c'est normal, étant donné la place que tient chez lui la dialectique, qui implique toujours une certaine opposition relative. Cette opposition étant l'âme même de la dialectique. Une dialectique, c'est une philosophie d'opposition, de différence. Donc, c'est une philosophie qui vit dans la relation. Parce que c'est elle qui fait l'opposition, c'est elle qui fait la différence. C'est évidemment dans les dialogues où la dialectique descendante est le plus explicite que l'usage de la relation est le plus net. Dans le Parménide, en effet, Platon étudie les relations des formes entre elles. Il n'étudie pas la relation pour elle-même, mais son exercice à travers les formes. Et c'est là, du reste, la faiblesse de la philosophie de Platon, c'est que la relation n'est jamais étudiée pour elle-même. Alors, je vous cite ce texte qui est particulièrement éloquent, Parménide, 133 CD. Toutes celles parmi les formes qui ne sont ce qu'elles sont qu'en leurs relations mutuelles, c'est dans ces relations qu'elles ont leur ousia, mais non dans une relation à ce qui parmi nous soit au titre de copie, soit au titre qu'on voudra correspondre à ces formes, dont la participation nous vaut les appellations respectives. Quant à ces objets qui, chez nous, sont homonymes des formes, eux aussi, c'est entre eux qu'ils ont leur relation et non avec les formes. C'est d'eux-mêmes qu'ils relèvent et non des formes, qui, à leur tour, portent les mêmes noms qu'eux. Réfléchissez à tête reposée sur ce texte, qui est terrible à comprendre. Vous voyez, le va-et-vient de la forme et la relation. La forme ne peut pas se penser sans la relation, et la relation ne peut pas se penser sans la forme. Alors c'est le lien. Et si toute la philosophie de Platon, c'est la philosophie de la forme, on peut dire aussi que c'est toute la philosophie de la relation. Alors, ceci, vous voyez, nous aide à mieux comprendre comment Aristote va, de fait, dans les catégories, tout de suite, distinguer substance-relation. En faisant ça, il met un peu de clarté dans Platon. Parce que si vous voulez, hein, je ne veux pas le faire avec vous, relire ce texte à tête reposée, hein, et vouloir vraiment le comprendre, vous verrez que forme ne peut pas se comprendre sans relation. Et que la relation ne peut pas se comprendre sans la forme. Et on verra pourquoi ensuite, hein. Au terme, vous me le rappellerez si j'oublie, d'expliquer ce texte de Platon. Une fois que j'aurai saisi ce que c'est que la relation, je dois pouvoir comprendre ce texte de Platon. Tandis que je vous défie de le comprendre comme ça. Oui, vous répéterez. Oui, oui, c'est vrai. La forme implique la relation implique la forme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le problème de l'unité synthétique des formes que Platon considère. Il s'agit bien d'un problème de relation. De fait, Platon étudie successivement les relations des formes entre elles, les relations des formes sensibles entre elles, les relations des choses sensibles entre elles, et les relations mutuelles des formes et des choses sensibles. Oui, on pourrait presque dire que le platonisme, c'est un tissu de relations des formes. Et vous rejoindriez là l'expression de Merleau-Ponty, l'être est un tissu de relations. Et je crois que c'est vrai. C'est pour ça que c'est si difficile de penser Platon. C'est très facile à lire, c'est très difficile à penser. C'est très difficile à penser Platon. Pas commode du tout. Parce que si on va à votre clarté, si on le lit simplement comme ça, ça va très bien. Dans le sophiste, exposant les genres suprêmes, l'étranger fait remarquer que les êtres se disent les uns selon eux-mêmes, katota, les autres vers les autres, pros Allah. Cette division est très nette. L'opposition entre le katota et le pros Allah est on ne peut plus manifeste. L'autre, lui, ne se dit que vers un autre. Tout ce qui est autre a comme caractère nécessaire de n'être ce qu'il est que relativement à autre chose. Or, toutes les formes, en tant qu'autre, participent de la forme de l'autre. Ce qui fait comprendre comment la relation est présente à toutes les formes. Mais l'autre, qu'est-ce que c'est que l'autre? Essayez de réfléchir, qu'est-ce que c'est que l'autre? La philosophie de l'autre, très actuelle ça, Lévinas, tout le problème de Lévinas, la philosophie de l'autre. L'autre, présent à toutes les formes, puisque chaque forme est autre que ce qu'elle est. Autrement, elle serait toute une. S'il y a une multiplicité de formes, il faut que l'autre soit présent à toutes les formes. Or, l'autre, comme tel, implique la relation. Donc, la relation est présente dans toutes les formes. Et toutes les formes sont constituées par la relation. Donc, la substance comme telle n'est pas saisie, première. Oui. C'est pour ça que ce texte des sophistes, là, est aussi très important pour saisir ce que c'est que l'autre. Dans le tiétète, oui, sont les grands dialogues de la fin de la vie de Platon, qui sont difficiles du reste, hein. Le Parménide, le sophiste, le tiétète. Il faut les avoir lus une fois dans sa vie. La plume à la main. Parce que si vous lisez ça le soir avant de vous endormir, vous allez rêver sur le tête-à-tête. Ce sont des rêves très particuliers. Dans le tête-à-tête, parlant du semblable et du dissemblable, de l'identique et du différent, tête-à-tête souligne c'est de telles déterminations surtout que l'âme pourrait examiner. Bon, c'est de telles déterminations surtout que l'âme pourrait examiner la substance en la comparant mutuellement. Pros allela. Dans le politique, à propos de la division de l'art, de la mesure, l'étranger affirme division. Cet art en deux parties. Divisons cet art en deux parties. D'une part, selon la communauté, vers la relation mutuelle, de la grandeur et de la petitesse. D'autre part, selon l'ousia nécessaire du devenir. Donc, ce qui est sûr, hein, je ne vais pas insister trop, ce qui est sûr, c'est que dans Platon, il est extrêmement difficile de concevoir la forme sans la relation. Je crois qu'on ne peut pas. Alors, vous voyez, ça fait que tout de suite, La philosophie ne peut être qu'une philosophie dialectique. Une philosophie d'opposition. Alors ça vous fait mieux comprendre. C'est toujours l'avantage de Platon. Spagnola, Platon est une propédeutique merveilleuse pour tous les problèmes. Tous les problèmes philosophiques, Platon les a abordés. Il les a abordés du côté de la disposition. C'est-à-dire qu'il n'a résolu aucun problème. Et alors, par le fait même, Platon pose merveilleusement les problèmes, dans toute leur complexité, dans toute leur difficulté. Ici, Platon pose merveilleusement le problème de la relation, en montrant que la relation s'infiltre partout. Je comprends très bien qu'on dit que tout est relation. Vous ne pouvez jamais saisir dans vos expériences, dans les réalités, une réalité dans laquelle la relation n'est pas présente. Alors, de là à dire que tout est relation, il n'y a qu'un pas à faire. On comprend très bien qu'en science, on dit que tout est relatif. Parce que tout se tient. Vous tirez sur quelque chose, puis tout devient un écheveau. Et c'est vrai, ça, je comprends très bien. Au niveau descriptif, c'est comme ça. Alors, vous comprenez ? Une fois que vous avez saisi ça, ça, c'est assez facile à saisir. Dans Platon, il y a un degré supérieur. Hein, c'est un peu plus que ça. C'est très, très réfléchi, quand même. Une fois que vous avez saisi ça, vous comprenez l'importance de saisir la substance qui est la saisie dans ce qui est de quelque chose qui se tient par soi-même. Un katoto complètement libre du relatif. C'est la délivrance de l'intelligence. L'intelligence se libère dès qu'elle saisit la substance. Parce que la saisie saisit quelque chose qui n'est pas relatif. Alors que quand l'intelligence saisit quelque chose de relatif, elle est tout le temps embourbée. Et il y a des gens qui sont d'une complication effrayante quand ils veulent vous expliquer quelque chose. C'est d'un compliqué. Et plus ils veulent expliquer, plus c'est compliqué. On a tous fait cette expérience là, devant. Ah, c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et alors, il s'embourbe dedans. C'est comme un camion qui s'embourbe dans un chemin dans lequel il n'y a plus rien. Alors, plus les routes tournent rapidement, plus ça va dans tous les sens. Dans la neige ou dans la boue, c'est comme ça. Ça fait penser à la manière dont l'intelligence, quelquefois, s'embourbe dans le relatif. C'est vrai, ça, c'est. J'allais dire que c'est la philosophie post-hégélienne. Elle est embourbée dans cette plus. Lisez du Lévinas. Lévinas a une certaine dimension personnelle et mystique. Mais quand il écrit, on n'y comprend plus rien du tout. C'est vrai, quand vous voulez. Vous pouvez très bien le lire poétiquement. Alors c'est très reposant. En vous chauffant auprès d'un feu de bois. Alors vous pouvez ça lire ça. Mais quand vous voulez le comprendre, difficile. Très difficile. Et c'est intelligent. Et c'est embourbé. Éviter d'inviter Lévinas sur une conférence ici. Il serait très content s'il peut encore circuler. Parce qu'il commence à vieillir. Parce qu'il venait à Fribourg faire des conférences, faire des cours à Fribourg. Donc on le connaissait un peu. Une fois que vous avez compris cet embourbement, de la, du relatif, est embourbé là-dedans. La découverte de la substance est une libération. Et c'est ça qui est intéressant dans Platon. Alors moi, je comprends l'avidité d'Aristote de découvrir la substance en face de Platon. Parce que peut-être nous, on ne le comprend pas assez, vous voyez. On lit ça comme ça. Oui, oui. Livre des états, il a découvert la substance. Mais oui, mais c'est extraordinaire que l'intelligence puisse saisir quelque chose d'indivisible, de non relatif. De saisir un principe d'être, un principe propre d'être. Je dis ça parce que c'est comme ça. Je crois que nous pouvons comprendre l'intérêt d'une topique. On pense que peut-être une philosophie qui est avant la distinction de la substance et de la relation. Une philosophie qui reste au niveau de la forme. Alors, c'est la question qu'il faut se poser au plan métaphysique, au plan critique. Lorsque l'être, ce qui est, égale forme, Platon, on ramène l'être à la forme et la forme à l'être. Pouvons-nous encore, quand on est au niveau de la forme, distinguer vraiment substance et relation? Posez-vous la question. Personnellement, je ne crois pas. C'est ça, être embourbé métaphysiquement. D'abord, on reste au niveau de la forme. On ne saisit pas vraiment l'être. Ce qui est comme tel est au-delà de toute forme. Et c'est ce que vous saisissez lorsque vous saisissez la substance. Tant que vous n'avez pas compris ça, n'avez pas saisi la substance. Vous restez dans la forme. La forme, c'est l'acuité, c'est l'intelligibilité. C'est le domaine qui nous est connaturel, quoi. On est connaturel à la forme, à la détermination. Ça, c'est propre. Philosophie propre. Il faut la saisir, la substance, par l'induction. Pour me libérer de ça. Ça, c'est une libération étonnante. Alors, maintenant, entrons dans Aristote. Si Aristote peut être considéré comme le philosophe de la substance et de l'acte, il n'en accorde pas moins au relatif, à ce qui est en puissance, une attention particulière, tout en reconnaissant les difficultés que présente une telle étude. Ça, je crois qu'Aristote reconnaît que l'étude de la relation, c'est très difficile. C'est en face des sophistes, en face des platoniciens, qu'Aristote élabore sa propre théorie du relatif. Bon, les sophistes demeurent dans le relatif. Tous les rhéteurs. Mais que Platon ne sorte pas de la distinction forme-substance, forme-relatif, ça, c'est autre chose. Je crois qu'il n'en sort pas. Vous voyez, parce que justement, c'est ce que je viens de dire. Il saisit la substance. En fait, ça, exactement, ce serait mieux. Oui, comme ça, forme. « Puis, la forme, si je ramène la substance à la forme, le relatif est une forme. Et donc la forme fait l'amalgame entre la substance et le relatif. Et je ne peux plus en sortir. C'est comme ça que vous voyez qu'une philosophie de la forme ne peut plus distinguer substance et relation. Ça, c'est très intéressant. Parce que vous voyez qu'à partir de là, je ne peux plus rien dire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on dit, mais l'intelligence ne peut absolument pas atteindre Dieu. Ce n'est que le moment où vous avez atteint la substance que vous pouvez dire, oui, mon intelligence est faite pour un absolu. Et au moment où vous saisissez que votre intelligence est capable de saisir quelque chose qui est d'une manière absolue, au-delà de la relation, vous dites, mais oui, alors, elles peuvent être atteindre l'absolu. Tandis que si elles restent enlisées dans le relatif, impossible. La voie d'accès est coupée. Donc, c'est en face des sophistes et des platoniciens qu'Aristote élabore sa philosophie du relatif. À ces derniers, les platoniciens, il reproche à la fois d'exalter le relatif au point de le considérer comme un absolu et en en faisant une forme antérieure à ce qui est et de ramener le relatif à l'inégal et même au non-être pour expliquer la multiplicité des formes. Voilà les deux grands reproches d'Aristote aux platoniciens. Cette double critique d'Aristote met en lumière l'insuffisance radicale du platonisme en ce qui concerne le relatif. En faire une forme idéale, c'est en faire un principe. Lui accorder un absolu qu'il n'a pas. S'en servir pour expliciter la multiplicité des formes idéales, c'est ne plus le reconnaître en tant que le relatif et le réduire au non-être. On voit donc comment, si l'on assimile le relatif à une forme, on est conduit à cette contradiction de le poser à la fois comme être en soi et comme non-être. C'est très fort de la part d'Aristote de faire ça. C'est extrêmement astucieux de voir que réduire, voyez, le relatif à la forme, c'est au fond empêcher de saisir ce qu'il y a de caractéristique à l'être relatif. Alors c'est pour ça qu'Aristote est si farouche. Et peut-être que le passage le plus important des catégories, puisque vous avez étudié les catégories, peut-être que le passage le plus important des catégories, c'est lorsqu'Aristote étudie le relatif. C'est le passage le plus subtil. Dans la substance, c'est pas très subtil. On peut tous saisir la catégorie substance. Et la catégorie relative. Je sais pas si vous l'avez saisi. C'est ce qu'il y a de plus subtil. Dans les catégories, après avoir défini la substance, au sens le plus propre, protos, la substance première, le todéti, comme ce qui n'est ni énoncé en dépendance d'un sujet, ni dans un sujet. Donc il définit la substance première par deux négations, pour monter sa transcendance. la substance première n'est ni énoncée en dépendance d'un sujet, ni dans un sujet. Aristote, se fondant sur l'analyse du langage, présente ainsi la catégorie du relatif. On appelle relatif. Alors, n'oubliez jamais, le relatif, pour le grec, c'est prosti. J'aime bien que le relatif soit la dyade. Ce qui est très embêtant en français. Le relatif est simple. Dans le langage, vous comprenez bien. Ça, c'est très gênant. Ce qui est très astucieux, c'est d'avoir fait le relatif prosti. C'est merveilleux, hein. Vous voyez, comme le langage est plus adéquat au relatif. Le relatif, il est toujours double. C'est ça qui est le plus embêtant. Il est prosti. Mais quand vous êtes relatif, vous êtes vers quelqu'un. Le ti, c'est le plus indéterminé. Vous savez que le ti, dans la prononciation des Grecs modernes, prend une importance énorme. Première fois que j'étais en Grèce, comme j'étais en Dominicain, et qu'il n'en voyait pas beaucoup, alors tout de suite j'avais une bande de gosses qui disaient « ti, 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 ti ». Là, vous commencez à comprendre ce que c'est que le ti. Ça veut très bien comprendre. Alors, prosti. Un gosse qui vous regarde, prosti. Comprenez tout de suite. C'est tout de suite tout relatif. Une grande personne, c'est différent, parce qu'elle regarde plusieurs personnes. Tandis que le gosse a cette possibilité d'être tout entier, vert. Alors, il est prosti. On appelle relatif, prosti. Il faut au moins savoir ce mot grec. C'est tellement beau d'être prosti, vers quelqu'un. Les êtres tels qu'eux-mêmes, dans ce qu'ils sont, sont dits en dépendance d'un autre. Voilà ce que c'est que relatif. Ils sont en dépendance d'un autre. Un gosse qui regarde est prosti. Deux yeux. C'est pour ça qu'il y a deux yeux. C'est pour être prosti. Les êtres, donc, on appelle relatifs les êtres tels qu'eux-mêmes, dans ce qu'ils sont, sont dits en dépendance d'un autre. Ou, de quelque façon que ce soit, se rapportent à un autre. Ainsi, plus grand et dans tout son être, dit d'un autre. Car c'est par rapport à un autre qu'il est plus grand. De même le double. Et dans tout son être, dit d'un autre. Et c'est d'un autre qu'il est le double. Donc il est prosti. Dans tout ce qu'il est, il est vers un autre. Juste l'inverse d'être simple. Le relatif, il louche tout le temps. Il est tourné vers un autre. Et ce qu'il est vers un autre. Le relatif exprime donc, à l'opposé de la substance, ce qui est pure référence à un autre. Pure référence. Ordre à un autre. Ordonné à un autre. Outre, le relatif pur, comme double ou plus grand, Aristote discerne plusieurs espèces de relatifs, notamment les relatifs qualité, qui peuvent être considérés soit comme relatifs, soit comme qualité. Par exemple, l'habitus, lexis, et la disposition, les relatives situations, station droite, position couchée, position assise, je suis assis. Bon, c'est un relatif situation, dont le caractère relatif est moins explicite et la signification qualitative plus immédiate. Ça, c'est très joli d'avoir tout de suite discerné ça. Il y a des réalités qui sont qualité et relatif, qui sont situation et relatif. Aristote examine ensuite les propriétés des relatifs. Certains relatifs sont contraires, notamment en tant qu'ils impliquent la qualité ou la quantité. Mais les relatifs purs n'ont pas de contraire. La contrariété n'est donc pas propre au relatif comme tel. Le relatif est au-dessus de la contrariété. C'est aussi très beau, très beau ça. Très intéressant, psychologiquement parlant. Certains relatifs sont capables de plus et de moins, comme le semblable, mais non pas tous. Le relatif pur n'implique pas de plus et de moins. Il est à quelque chose de simple, tout en étant double. C'est-à-dire, c'est la simplicité dans la dualité. C'est extraordinaire, ça. Il n'implique pas de plus et de moins. C'est la qualité qui implique le plus et le moins. Tous les relatifs, pris au sens propre, sont dits vers leur corrélatif. Selon une réciprocité parfaite, s'il s'agit de relatifs purs, imparfaitement dans le cas des relatifs qualités. Voilà donc la première propriété spécifique des relatifs comme tels. À cette propriété des corrélatifs s'ajoute celle qui concerne les opposés relatifs, puisque toute corrélation implique une opposition relative. Les termes qui s'opposent comme des relatifs, sont eux-mêmes, dans tout leur être, dits leur opposé. Le double est le double d'autre chose. La science s'oppose à l'objet connaissable. Et la science comme objet connaissable sont énoncés en dépendance de leur opposé. Mais alors qu'on distingue deux types de corrélatifs, réciproques ou non, il n'en va pas de même pour les opposés relatifs. Et ça commence à se compliquer, hein. Mais c'est quand même très important, ça. De voir que tous les relatifs pris au sens propre sont dits vers leur corrélatif. Enfin, quatrième propriété des relatifs. Les relatifs comme tels sont par nature simultanés. Mais d'autres liens peuvent intervenir entre les relatifs et supprimer cette simultanéité. La simultanéité mutuelle est donc bien une propriété des relatifs comme telle. Donc, ce qui caractérise le relatif pur, c'est d'être corrélatif. Et ce qui caractérise le corrélatif pur, c'est d'être simultané. Alors là, vous saisissez un peu par la propriété ce que c'est que le relatif pur. Au cours de cette analyse, il s'est avéré que les termes qualitatifs et quantitatifs pouvaient être regardés comme des relatifs. Aristote, qui ne perd pas de vue les platoniciens, va donc poser au terme de sa recherche une dernière question. Les termes substantiels peuvent-ils, eux aussi, être regardés comme des relatifs? En ce qui concerne les substances premières et leurs parties intégrantes, il est clair que ce n'est pas possible. Mais il n'en va pas de même des substances secondes, ou plus exactement de leurs parties en tant que parties. La main de l'homme, la tête de l'homme. Aristote pose alors une nouvelle définition de relatif pur, qui a l'avantage d'intégrer